être terre à terre.
Ça tombe très bien.
Déjà, vous, est-ce que vous avez la foi? Et deuxième chose, à quoi ça sert au CNES d'avoir un théologien? C'est quoi votre travail en fait?
Bon. Alors, première question, si tant est qu'on puisse dire qu'on a la foi, mais bon, oui, enfin, je dirais je suis croyant. Et la dernière fois, Dieu est pour moi l'objet d'une immense curiosité. Voilà, aujourd'hui, c'est peut-être encore comme ça que j'arrive à dire en trois mots ce qui est pour moi ma manière de vivre comme croyant. Alors, comme vous l'avez dit, hein, je suis théologien, j'ai fait un doctorat en théologie. J'ai appartenu à l'ordre des Dominicains pendant 25 ans. Et si je l'ai quitté, ce n'est pas pour des questions théologiques. La théologie, je continue à en faire un peu. J'ai essayé d'en faire un petit peu dans Dieu ne joue pas au dé. Voilà. Alors, le fait que je sois théologien n'a pas été un critère de sélection pour être engagé au CNES. Au contraire, j'ai dû plutôt montrer patte blanche. J'ai donc même fait appel à un philosophe athée pour qu'il me fasse une lettre de recommandation en disant je travaille avec M. Arnoux et il ne confond pas le domaine de la théologie, de sa foi, etc., et le domaine scientifique ou le domaine des sciences humaines. Donc, je caricature pas parce qu'il a fait effectivement cette lettre, mais voilà le contexte. Il s'est trouvé que, je vous taquinais tout à l'heure, mais je me suis retrouvé un jour au CNES presque par surprise, invité par quelqu'un du CNES. J'ai passé 2 mois, j'ai regardé ce qu'il faisait avec un regard plutôt, on va dire, d'historien des sciences, de sciences humaines, et ils m'ont dit au bout de 2 mois, mais c'est intéressant tout ce que vous faites, si vous voulez rester avec nous, restez. Donc je suis resté au CNES, je me suis passionné pour les histoires spatiales, parce que c'est un milieu très enthousiasmant, surtout quand on est avec des passionnés. C'est un virus. Et puis nous avons à partir de là développé, proposé d'introduire une réflexion éthique au sein des affaires spatiales. Parce que dans les années 2000, dans d'autres domaines c'était assez fréquent, le Conseil consultatif national d'éthique avait été créé 17 ans auparavant, parce que c'était 83. Donc le domaine médical était déjà très, très suivi. Le domaine de la biologie un peu, c'était l'époque des OGM, on parlait déjà pas mal d'éthique. Ouais, le journalisme aussi, les affaires, ça commençait un peu, les affaires, l'économie un tout petit peu, mais le spatial, pas du tout. Et donc l'idée a été de créer en 2001 un demi-poste d'expert éthique, que j'occupe toujours, avec un certain plaisir. J'avoue, j'ai grand plaisir à travailler, parce qu'il y a toujours du travail. L'espace étant illimité, on n'a jamais fait le tour, donc il y a toujours des questions nouvelles.
Qu'est-ce qu'on peut faire qui ne soit pas éthique quand on travaille avec l'espace?
Effectivement, tout est éthique, parce que pour moi, l'éthique est d'abord une posture. Ce n'est pas un jugement en disant « ça, c'est éthique, ça ne l'est pas ». Ne serait pas éthique le fait de faire quelque chose sans se poser de questions. Ça, ce n'est pas éthique. Mais nos activités sont strictement humaines. Il n'y a pas d'espace qui ne soit pas humain. Alors on revient sur la question, jusqu'à rencontrer des extraterrestres. Mais, donc, mon job, en fait, est de... Bon, c'est comme ça que je l'ai compris, parce que on a dû un peu l'inventer. Non pas de poser des avis sur ce que font mes petits camarades, mais de se dire, au fond, c'est une maison d'ingénieurs, hein, le CNES, laisser ouverte la question les raisons d'être de ce que nous faisons. Pourquoi nous envoyons des fusées? Pourquoi nous envoyons des satellites? À quoi ça sert pour nous, citoyens français, puisque nous sommes une alliance française, et puis plus largement? Quelles sont les conséquences? Pourquoi... ou comment se comporter à l'égard des extraterrestres possibles? Parce qu'ils sont possibles. Donc quand on va sur Mars, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Alors évidemment, comme on ne les connaît pas, on ne connaît pas leurs revendications. En revanche, comme on ne les connaît pas, on voudrait les connaître. Donc ça veut dire aussi qu'on a une certaine attitude. Alors c'est une éthique qui est très très pratique. C'est se contraindre à ne pas aller apporter trop de cochonneries biologiques sur Mars. Mais vous avez tous entendu parler des débris spatiaux autour de notre planète. Bon, c'est un souci que nous avons déjà depuis longtemps. Mais comment accompagner ce souci de manière j'allais dire intelligente, c'est-à-dire que sans tomber immédiatement dans le jugement, mais essayer de décortiquer, justement, pourquoi on en est arrivé là. Ça sert à quoi? Pourquoi il faut, de fait, continuer, malheureusement, à produire des débris? Bon, comment on peut aussi diminuer leur production, sinon leur nombre, par rapport au vol habité. Donc, c'est un métier très sympa, parce qu'au fond, en l'occurrence, moi, je l'ai inventé, parce qu'il n'y avait pas de... On était les premiers à inventer cette mission-là. Et donc, ça n'a rien à voir avec la théologie. De fait, il s'est trouvé que j'étais aussi théologien. Donc au fond, c'est ça. Hein. Parce que sur le mode éthique, pour moi, c'est vraiment la répétition. Ce que je répète aux gens, c'est posez-vous des questions. Et dans cette perspective-là, l'éthique devient une manière de préparer la suite. Et non pas d'empêcher de travailler. Ce qui est malheureusement souvent la perception qu'on en a. Comme aussi du droit. C'est souvent, qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Alors dans les milieux où on parle beaucoup d'innovation et de recherche, parler d'éthique, ça peut paraître... c'est ceux qui vont empêcher de faire des découvertes. Je ne pense pas, au contraire. On peut justement inverser la vapeur.
Vous n'avez pas parlé des religions issues justement de cette existence supposée des extraterrestres. Alors, bon, c'est, par exemple, le mouvement sanitaire comme les raéliens, mais je ne sais pas si dans l'histoire des religions et ailleurs dans le monde, il y a des mouvements qui sont directement liés à cette existence supposée.
Alors, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je me suis surtout intéressé à la manière dont les religions, et celle à laquelle j'appartiens, s'est située par rapport à cette question, puisque c'est un peu comme ça qu'on m'interrogeait. Donc, j'étais un peu pragmatique dans mon travail. Comme ça, spontanément, évidemment, je penserais comme vous à Raël, bon, qui est une religion, une secte, avec évidemment plein de... Il est allé utiliser des tas d'ingrédients. Raël, ne serait-ce que le mot de Raël, qui est évidemment Israël... Elle et compagnie, ça marche très bien. Bon, plus d'autres petites cuisines internes qui fonctionnent. Après, la difficulté, c'est quel curseur mettre. Quand on vous dit que les Mormons sont très, très ouverts à ce genre de choses, pour autant, ils n'intègrent pas nécessairement des ovnis. Mais on va dire, si on dit que les anges sont des extraterrestres, là, vous avez toutes les religions qui en... Donc, c'est pas très très facile. En tout cas, Raël serait un exemple. Quand les rationalistes vous disent la découverte d'une vie extraterrestre sonnerait la fin des religions, certainement pas. Il y aurait peut-être des religions qui en prendraient plein la figure, et en tout cas un certain nombre de croyants, oui. J'aurais vraiment peur pour un de mes amis qui serait vraiment très très mal. Je ne sais pas comment je pourrais le soulager, le consoler. Mais on créerait d'autres religions immédiatement. Ça me semble parfaitement évident. On se ferait évangéliser par les extraterrestres. Bon, il faut aussi considérer cette possibilité-là. Mais en dehors de Raël, je ne saurais pas vous dire. Parce qu'après, voilà, dès qu'on est dans une situation un peu plus ancienne, ils sont déjà là. Pour ça, ils sont déjà là. En fait, on a déjà des êtres, d'autres êtres avec lesquels on entretient, on voit bien. Enfin, tout ce que la science-fiction a imaginé comme relation qu'on puisse avoir avec des êtres extraterrestres, les religions les ont, y compris dans avec les anges, les demi-dieux. C'est déjà présent. Donc. C'est ça qui rend la chose à la fois intéressante à travailler et en même temps où il faut y aller avec beaucoup de prudence. Parce qu'en même temps, je trouve ça extrêmement intéressant. Enfin, d'un point de vue théologique, les percées théologiques d'Athéard de Chardin, alors on peut être d'accord ou pas, c'est pas sur le... mais évidemment, les découvertes scientifiques actuelles invitent, voire contraignent les théologiens à se poser des questions à la fois très anciennes, mais avec des configurations tout à fait contemporaines. C'est clair que le christocentrisme, l'anthropocentrisme chrétien est nécessairement questionné. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner. Mais il ne peut plus être formulé de la même manière qu'il y a quelques siècles et pendant des siècles, tel qu'il a été formulé pendant des siècles. Hélas.
Mais Il a déjà été confronté à la découverte d'autres mondes,
oui,
d'autres mondes terrestres,
bien sûr,
avec les grandes découvertes de civilisations qui ont une autre vision du monde. Donc c'est une expérience que cette religion a déjà connue.
C'est pour ça sans doute que les religions occidentales n'ont pas aussi peur qu'on aurait, enfin que certains voudraient ou que certains donneraient l'impression. En même temps, c'est quand même, il y a aussi
un autre degré. Mais est-ce que les sources sont tirées justement de quand la découverte des civilisations d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie, et donc d'autres visions du monde, est-ce que des enseignements ont été tirés pour être utiles éventuellement pour la rencontre d'extraterrestres?
En même temps, l'enjeu à l'époque, confère le procès de Valladolid, enfin en tout cas sa mise en scène, l'enjeu était de dire, ces autres êtres qu'on rencontre, sont-ils humains ou pas? Avec les enjeux théologiques, mais aussi les enjeux économiques et politiques qui étaient derrière. Donc, pour finir, petit à petit, on a réussi à admettre qu'ils étaient humains, ceux qu'on découvrait comme nous. Mais on a déjà du mal avec. On a déjà du mal. Et avec les religions aussi. Donc avec les extraterrestres, vous faites un pas quand même conséquent. Le pas spatial est quand même assez conséquent. C'est pas uniquement une question de distance, mais possiblement de différence. C'est pour ça que les scientifiques veulent absolument trouver de la vie ailleurs. Parce que d'un point de vue scientifique, ce serait un Graal parmi d'autres, mais un Graal quand même. Avec des tas de questions qui resteraient encore à résoudre. Mais donc d'un point de vue théologique, c'est vrai que dans la vision, par exemple dans la vision chrétienne, ou dans la vision du prédicateur qui veut absolument convertir le monde entier à sa foi, bon bah tous les ou alors tous les humains ou ceux qui sont considérés comme des humains, bon bah voilà, on les met sous sa dans sa chapelle ou sous son clocher. Alors que là, on imaginez un extraterrestre, et on voit bien, Teilhard, ça pose un tas de questions beaucoup plus dérangeantes. Parce que quand même, en tout cas dans la théologie chrétienne que je connais, c'est vrai que l'aspect de l'anthropocentrisme, et le côté très personnel et très individuel est tellement fort que c'est la... Écoutez, je dirais c'est la jalousie du fils aîné par rapport à ceux qui suivent, mais multipliée par un facteur énorme. Parce que nous sommes quand même, enfin, vous lisez la Bible, regardez même la question du peuple élu. La manière dont il a fallu gérer, même dans le christianisme, les nouveaux chrétiens venus du judaïsme vis-à-vis des chrétiens venus du paganisme, tout de même, eux, ils viennent du paganisme. C'est nous les vrais. C'est des humains comme les autres. Alors, vous passez ça entre les martiens qui débarqueraient en disant « Ah ben attendez, nous on est aussi là ». Non, c'est même pas les fils aînés, il n'y a que nous seuls. Et là, on s'inscrit, parce que quand on commence à... C'est jamais isolé, mais quand je faisais allusion tout à l'heure à... Quand je disais comme ça en passant, les églises se mettent au vert, la tradition chrétienne, ou les traditions chrétiennes occidentales viennent de très loin. C'est moins le cas, sans doute, des églises orientales, les traditions orientales, où la place de la création reste très présente dans la liturgie et la création avec les anges et tous les mondes, etc. Mais quand on est dans les traditions chrétiennes occidentales, qui sont devenues très personnalisantes, enfin, très personnalistes, très individualistes, qui se sont aussi coupées de la réalité matérielle et charnelle, dans les églises catholiques, il y a quelques dizaines d'années, donc au moment du concile, on chantait encore « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver ». Je n'ai qu'une âme. Donc, je ne pense qu'à moi, à mon salut et au salut de mon âme. Même mon corps n'est qu'un moyen dont je dispose pour faire mon salut. Alors déjà, donc, tout ce qui est autour, c'est qu'un décor. Donc, ce qu'on appelle l'environnement, je m'en fous. C'est un décor, il faut qu'il reste bien stable, c'est tout. Pas qu'il se casse la figure. Mais pourquoi m'y intéresser? Mais même ceux qui sont autour de moi. Bon, si, parce qu'il y a la charité, c'est bien pour... Je caricature, hein, mais on peut trouver ces caricatures-là. Alors, quant à des êtres ailleurs qui revendiqueraient une conscience, une intelligence, une spiritualité d'être créés par Dieu à leur image, parce que l'homme est quand même créé à l'image de Dieu, alors là, impossible. Donc, il y a déjà des petits, enfin, effectivement, des chapitres précédents, mais là, on arrive à des choses qui deviennent insupportables, enfin, pour certains. Moi, je suis plutôt curieux, hein, j'avoue que j'attends.
Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai deux questions. Savez-vous, alors vous êtes spécialisé dans la religion catholique, mais savez-vous si les autres religions, les grandes religions, notamment les religions du judaïsme et de l'islam, ont entretenu le même rapport à la science? Et ma deuxième question, qui est en fait un peu liée, d'après vous, une religion est-elle un support pour la science ou est-elle un frein? Certaines religions peuvent-elles être un support pour la science ou
à la première question, c'est évidemment un point extrêmement intéressant, il faut même l'élargir à l'ensemble des religions. Ce qu'on constate, c'est que les sciences telles qu'elles sont... Alors dans l'histoire, dans l'islam, on connaît, je connais mal, mais toute la tradition scientifique musulmane jusqu'au 10e, 11e, 12e siècle à peu près, je pense. Après, c'est passé dans le domaine de l'Occident chrétien. Donc, il y a toute une tradition importante et qui est tout à l'honneur de l'islam, de son histoire. Ensuite, c'est vrai que la science dont nous profitons aujourd'hui ou que nous pratiquons aujourd'hui, je ne sais pas encore s'il y a des scientifiques parmi vous ou qui l'ont été, ces sciences-là ou cette science-là, elle a pour terreau le plus immédiat l'Occident, la culture occidentale. Les premiers scientifiques modernes, donc 15e, 16e, 17e siècle, on peut encore dire qu'ils sont quelque part des théologiens chrétiens. En tout cas, quand un historien des sciences parle de théologiens séculiers, il veut dire par là que pour beaucoup d'entre eux, soit de ecclésiastiques, je parlais de Cassandi et d'autres, il y en a eu, même quelqu'un comme Galilée a une culture théologique, mais il ne fait pas de théologie pour autant. On parlait de Newton. Bon, voilà. En tout cas, ils élaborent un certain nombre de concepts qui ont leur racine en théologie. On l'avait presque dans la citation de Newton. Ils vont finir par utiliser des caractères de Dieu pour les appliquer au monde. L'énergie, la puissance, le caractère illimité, l'univers qui devient illimité, c'est la manière... Ce monde dont le centre est partout et la circonférence nulle part, c'est la définition de Dieu dans le stoïcisme. Donc, il y a un terroir chrétien dont se détache la science, parce qu'il ne faut plus recommencer l'affaire de Galilée, il ne faut plus recommencer l'affaire de Giordano Bruno. Et en fait, c'est une... Je veux dire, de part et d'autre, c'est une espèce d'accord tacite bilatéral. On a fait des conneries du côté ecclésiastique, donc petit à petit, on va lâcher. On ne va plus s'occuper de ces affaires-là. Il n'y aura plus de bûcher. Il y aura des condamnations, il y aura des mises en garde. Mais Teilhard de Chardin va se faire envoyer en exil en Chine. Mais bon. Et du côté scientifique, pendant un certain temps, on ne va plus s'occuper de ces questions de métaphysique et du grand tout pour tout expliquer. On va se focaliser sur notre lorgnette télescopique, sur notre microscope. Comme ça, on n'aura pas de problème avec les théologiens. Et on va faire attention de ne pas sortir d'abord. On voit bien dans certains discours, ils se retiennent, parce qu'ils savent bien que s'ils vont trop loin, ça y est, ils vont commencer à empiéter sur... Enfin, ils vont rencontrer des adversaires. Mais c'est bien au sein de la culture chrétienne. Donc, ils se détachent, mais ils se détachent de ça. C'est pour ça que quand j'essaie de voir un peu en dehors du milieu chrétien, enfin, quand j'ai le temps ou l'occasion, la situation ailleurs, et peut-être déjà dans le judaïsme et dans l'islam, bon, qui ont quand même des points communs. Bon, alors après, aujourd'hui, on peut parler de l'actualité, mais quand on va encore plus loin, quand on va en Orient, en Extrême-Orient, c'est pas de leur culture qu'est née la science qu'aujourd'hui ces scientifiques pratiquent. Et j'ai l'impression que ça crée moins de problèmes. Parce que ça vient d'ailleurs. Alors, je ne dis pas que c'est plus facile, enfin, qu'il n'y a pas de problème, mais on les sent plus facilement à l'aise dans leur tradition religieuse, animiste, taoïste, confucianisme, bouddhiste, etc., tout en pratiquant une science qui vient d'Occident. Alors quand en plus, je ne sais pas qui doit être béni dans ce cas-là, enfin leur dieu à eux peut être béni, quand en plus les visions du monde qui apparaissent, confèrent ce que je vous disais tout à l'heure à propos du bouddhisme, arrivent avec des approches de l'univers, par exemple, qui coïncident pas mal avec l'appréhension enfin, de leur tradition, ben là c'est tout bénef, quoi. Au point d'ailleurs qu'un certain nombre de scientifiques occidentaux se retrouvent volontiers dans des spiritualités plus orientales en disant « mais c'est chez eux qu'il y a tout ». Bon, alors méfiance, parce que la compréhension qu'un scientifique occidental peut avoir d'une tradition extrême orientale, bon, il faut tant mieux s'il y trouve du bien-être pour lui. Hein. Alors, oui, est-ce que c'est un frein ou pas ? Ben, ça peut tout être. Parce que même ceux qui vont développer les sciences modernes, comme dans ma description, et se détacher de la tradition chrétienne, ils s'en détachent. Mais s'en détacher, c'est quand même dépendre un petit peu. C'est, évidemment, par moments, ça peut être aussi en termes de conflit, mais c'est quand même devoir quelque chose à une tradition. Alors parfois, ça peut être une tradition occidentale plus large, bon, à travers, je disais, la science musulmane repassant par des tas de biais décrits, retraduits, etc. Ça peut être parfois effectivement conflictuel. C'est clair que Giordano Bruno, c'est pas un scientifique. Mais la condamnation de Galilée, ça pèse encore aujourd'hui dans la manière dont certains croyants abordent la science et donc certains scientifiques abordent la foi. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a des exemples dans tous les sens. Le père de la théorie dite du Big Bang, vous le connaissez ?
Le maître.
Georges Lemaître. Qui est ?
Belge.
C'est pas la religion. Hein.
Il est prêtre. Ouais. Oui. Le chanoine Georges Lemaître. Donc, dans les années 20 et 30, élabore ce qu'il appelle la théorie de l'atome primitif. Et qui va devenir la théorie du Big Bang à cause de Fred Hoyle, athée militant, qui refuse la théorie de l'atome primitif ou de l'expansion de l'univers à partir d'un point singulier. Et parle du Big Bang, et de l'homme du Big Bang qui est le maître. Bon, à part ça, ils se connaissent, parce que ce sont des collègues scientifiques, hein, mais en tout cas, ils sont complètement opposés de ce point de vue-là. Le maître se défend, durant toute sa vie, du moindre concordisme, parce que le Big Bang, c'est aussi pour ça que Hoyle ne supporte pas ça. Ça ressemble quand même beaucoup au premier chapitre de la Genèse. Au commencement, bang! Et voilà, c'est Dieu qui est à l'origine de la tasselle primitive. Et donc, le maître, vous avez des je dirais pas des discours entiers, mais jusqu'à la fin de sa vie, encore un discours, je crois, en 66, et il meurt dans cette année-là, en disant, mais on sépare les choses. Bon, je n'ai pas fait une théorie pour défendre le texte de la Genèse. Mais quand vous lisez la vie de Lemaître, enfin, un ou deux bons biographes de Lemaître, vous voyez que quand il est jeune, il est déjà dans les tranchées, il est déjà ordonné ou pas, je ne sais plus. Enfin bon, en tout cas, jeune théologien et jeune ecclésiastique belge, donc, il écrit des textes où, avec un concordisme extraordinaire. Et on peut penser que dans son processus intellectuel, il a eu un certain nombre d'intuitions scientifiques à partir d'une influence biblique. Il n'est pas concordiste, parce que il serait concordiste s'il affirmait que c'est à cause de ça qu'il a découvert et qu'il le défend jusqu'à la fin de sa vie. Mais donc dans ce cas-là, je dirais qu'il y a une influence plutôt sans doute positive, en tout cas pas négative du tout, mais plutôt positive, d'une tradition particulière, d'un texte sacré sur une intuition scientifique. Et au même moment, Teilhard, je vous disais, se faisait crossé par Rome en disant mon cher père, vous n'avez plus le droit d'écrire et de faire le moindre conférence en matière religieuse, et puis continuez à faire de la science, c'est très bien, et allez vous faire voir en Chine, comme ça au moins vous serez loin de chez nous. C'est ordinateur en 1922, 1923. Au moment où le maître commence à publier sur sa théorie de l'atome primitif. Donc, et je pense que dans toutes les religions, il y a à peu près ça. Il y a des moments d'obscurantisme et des moments, au contraire, les sciences, les religions peuvent être au contraire des supports scientifiques. L'observatoire du Vatican est un exemple. Hein. C'est les jésuites. Enfin, encore aujourd'hui, sauf que l'observatoire n'est plus dans Rome, n'est plus à Castel Gandolfo, mais en Arizona, parce que le ciel est quand même plus propre que celui de Rome. Très difficile de vous répondre. Oui.
Est-ce que dans les milieux scientifiques actuellement, la question de la religion est vraiment une question? Est-ce que, à l'inverse, est-ce que autrefois oui, mais est-ce que finalement maintenant le divorce étant un peu réglé, finalement est-ce qu'il y a encore chez les scientifiques toujours ce questionnement religieux qui apparaît ou non?
Alors. Comme vous, je me suis posé la question. J'ai constaté qu'autour de moi, et ça veut dire autour de moi, c'est-à-dire en France, c'est une question totalement taboue. Il n'est pas question de poser, de s'exprimer là-dessus. Alors, au nom d'un tas de choses, qui peut être soit des convictions, enfin, mais c'est la question elle-même est taboue. Et je me souviens, la dernière fois que j'ai eu cette illustration d'une telle position, c'était il y a donc maintenant quelques années, nous venions de poser, je dis nous parce que le CNES était là-dedans, de poser une petite sonde sur une comète, vous vous souvenez, en 2014, Philae qui se posait sur Churyumov-Gerasimenko. On a passé des années à apprendre ce mot-là. Et alors, beaucoup de médias, etc. Et moi, je suis invité à une émission télé, bien connue, avec un journaliste scientifique, deux scientifiques et ma pomme. Et dans les questions des auditeurs, des téléspectateurs, à la fin, la question c'est « Et Dieu dans tout ça ?» Bon, et ils décident de nous passer la question. Et l'un des deux scientifiques, qui était André Braïc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet astronome trépidant, donc saute sur sa chaise, il n'attend même pas qu'on lui donne la parole, il la prend immédiatement, il saute sur sa chaise en disant « C'est une question que nous n'avons pas à nous poser, nous scientifiques. » En fait, la question était pour moi. Donc on me passe la parole. Et je dis, mais je comprends très bien votre attitude, mais allez un peu lire vos confrères, astronomes, cosmologues et autres, du 20e et 21e siècle, ailleurs qu'en France. Et vous verrez que cette question est abordée. J'avais fait le travail à ce moment-là, c'est pour ça que je pouvais lui affirmer, bon, c'était pas uniquement un coup de bluff télévisuel, parce que je venais faire un peu le travail, alors de manière encore ponctuelle, parce qu'on ne peut pas se balader aujourd'hui, il faudrait regarder toutes les émissions, écouter toutes les émissions radio, télévision, etc. Mais ne serait-ce que dans le domaine des écrits, depuis Einstein, donc, qui disait que Dieu ne jouait pas au dé, il n'est pas le seul à avoir une position théologique, parce qu'Einstein ne dit pas ça pour rire. C'est effectivement une position théologique pour lui. Parce que Dieu c'est quelqu'un pour Einstein. Et Einstein, je suppose, est quelqu'un pour Dieu, mais ça, je peux demander à Dieu. Donc, Einstein avait cette question-là, et il avait une position qui était celle de Spinoza, avec une approche beaucoup plus globale. Dieu et la nature, c'est la même chose, plutôt panthéiste, un panthéisme à la Spinoza. Mais il y en a d'autres autour de lui. Qui autour de ce... Alors dans ce monde déjà de la cosmologie, de l'astrophysique, se posait beaucoup ces questions. Donc, alors il y avait aussi bien le maître qui défendait ça, enfin, alors, avec une position très séparatiste, c'est-à-dire aucun concordisme, et encore moins, il n'est pas question de parler de Dieu. Donc lui, il parlait quasiment pas de Dieu. Peut-être quand même dans ses homélies le dimanche, je suppose. Mais vraiment une très grande prudence, mais qui était une prudence politique. Oui, c'est parce qu'il était trop attaqué là-dessus. Un théard, lui, en permanence, enfin, était sur les deux champs. Et par moments, on peut se dire, tiens, comment il gérait ça? Parce que l'influence est quand même plus importante que lui-même le dit parfois. Vous avez des astronomes qui étaient des athées militants, étaient des cathos convertis, des juifs, donc dans le cas de enfin, Einstein se revendiquait comme juif. Enfin, c'est vrai que le monde de l'astro, alors pour ça je parle de l'astronomie, est plutôt, amène plutôt à ça. Parce que l'astronomie, c'est beau, quoi. Les astres, c'est superbe. Il n'y a pas de problème avec les astres. Bon, des fois, ils se tapent un peu dessus, mais c'est tellement rare que c'est bon, voilà. Alors que la biologie, c'est plus difficile. Et de ce que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup plus de réticence, parce que le monde de la biologie, je ne dis pas que c'est le monde du péché, quoi, mais c'est le monde, mais c'est mortel, on a les mains dans le cambouis, quoi. Et c'est... La contemplation est... Vous pouvez effectivement, enfin, trouver des tas de la vie. Et le vivant est magnifique à contempler, mais rapidement, vous avez des choses moins belles qui vous débarquent. Quoi. Donc, c'est peut-être ça qui fait que le biologiste est moins contemplatif que l'astrophysicien. Mais l'astrophysicien contemporain, vous avez une plus grande facilité, en dehors de la France, à s'exprimer sur là-dessus.
En France, peut-être aussi, en tout cas dans la recherche publique, il y a la laïcité.
Bien sûr.
Qui doit quand même peser aussi.
Oui, absolument. Ce qui fait que vous avez des expressions de scientifiques chrétiens ou croyants, parce que je pense à tel collègue astronome musulman, ça nous est arrivé d'être sur la même tribune ou de nous suivre dans des mêmes lieux. Donc il y a des expressions. Mais c'est vrai que il y a un peu plus de discrétion que dans d'autres cultures américaines, par exemple, où là, avec parfois aussi des excès. Moi, la laïcité du bon, hein, parce qu'on essaie de placer aussi dans quel domaine on se place, avec quelle casquette on s'exprime. Et c'est finalement, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est plus agréable d'avoir cette attitude-là. Alors après, bon, évidemment, ça m'est déjà arrivé d'être dans tel ou tel... contexte du CNRS où j'étais intervenu, on m'avait invité à une table ronde autour des questions d'évolution justement. Et à la suite de mon intervention, il y avait eu des plaintes comme quoi on avait invité un théologien à s'exprimer. Et alors les arguments étaient extraordinaires parce que c'était au nom de la liberté d'opinion, je devais me taire. Donc, voilà. Mais dans la même phrase, vous aviez ça dans la courrier des lecteurs. Donc, bon, ça a été... là, évidemment, on tombe sur des choses qui... La personne aurait dû relire quand même son courrier, parce qu'on aurait vu que... Alors après, évidemment, il faut gérer ça. C'est une question que vous avez travaillée. Et très honnêtement, je trouve que les choses vont... Parce que voilà, ça fait un certain d'années que je navigue dans le domaine et que je m'y intéresse. Je trouve qu'on est plutôt dans une période où il y a un apaisement, une possibilité de dialogue beaucoup plus grande aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Bien sûr, il y a toujours des militants des deux côtés. Hein, et des deux côtés. Parce que si on parle de créationnisme aujourd'hui, et c'est un réel souci pour la société française, pour moi, et dans l'enseignement, dans la question des sciences, la place des sciences dans la société. Enfin bon, ça c'est... Les croisés créationnistes posent vraiment un gros problème à l'éducation nationale. Enfin bon. Mais s'ils existent, et si parfois ils sont très virulents, c'est parce qu'il y a aussi une science arrogante, une science athée, militante, arrogante. Bon, faut pas croire que c'est tout de la faute d'un des côtés. Les croisades s'entralimentent plutôt. Hein, s'entralimentent. Et au milieu, il faut trouver un juste équilibre. Moi, finalement, ça me rassure quand... Là, j'ai moins intervenu là-dedans, mais à une époque où j'étais pas mal sur la question créationniste, et j'étais dénoncé par les créationnistes comme un suppôt de Darwin, et j'étais dénoncé par les darwinistes comme une taupe du Vatican. Bon, alors je me dis, au fond, c'est peut-être que je me situe un peu entre les deux, et que... Mais... Je défends, je trouve cette position de laïcité, mais d'une laïcité de dialogue et active, et non pas de condamnation non plus. Dans le domaine de la science, c'est extrêmement intéressant, mais aussi dans le domaine religieux, où nous avons besoin, en tant que théologien, nous avons besoin d'écouter les sciences, les philosophes aussi d'ailleurs, mais je ne parle pas pour eux. le monde qui nous entoure et que nous connaissons aujourd'hui est comment tellement différent de celui dans lequel, au sein duquel, souvent nos traditions ont été construites. C'est pas pour les abandonner, mais c'est comment continuer le travail.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous.
Sur ce point de comment continuer le travail.
À vous. Merci.